préparer pour ce 26e tour un extrait de la partita numéro 6 de Jean-Sébastien Bach, la toccate, la fin de la toccate, c'est-à-dire les mesures 89 à 108. Je veux avoir votre commentaire là-dessus.
C'est joli.
Oui, c'est bien. Je n'avais pas préparé ça. Qui a préparé la partition? Ah, il y a quand même quelques vaillants. Marie-France, qu'est-ce que vous diriez? De l'ensemble, comment vous avez vu cette chose-là? Cette finale qui reprend bien sûr des passages ailleurs, mais... Que se passe-t-il systématiquement dans les mesures 89 à 108? Qu'est-ce que vous observez?
On a deux tonalités.
Ah, je ne parle pas en point de vue de tonalité. Beaucoup plus large, au point de vue forme. Toujours la forme d'abord avant les tonalités, tout le temps, tout le temps. Quand je demande une première position, là, c'est une position large, sur le plan formel, c'est composé comment?
Qu'est-ce qu'on pourrait dire en deux heures? Dans le thème, après ça, ça se développe, ça arrive en thème, dans le thème.
Oui, ça donnerait toujours AB, 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 quoi. Quelque chose de plus précis, c'est beaucoup plus systématique que ça. C'est ça qui nous intéresse a priori, plus que l'analyse harmonique. L'analyse harmonique, ça c'est autre chose. On entre dans à l'intérieur. À l'intérieur du contenu. Et le contenu, c'est quoi? Vous l'avez écouté, tu imagines?
Non.
Ah, qui l'a écouté? Parce qu'il est enregistré. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire après l'avoir écouté? Indépendamment de l'analyse harmonique, indépendamment des tonalités qui sont en cause, du plan tonal.
Ben, y a un motif de deux mesures qui revient constamment. Lui est séparé.
Un motif, oui, continuez, motif de deux mesures qui revient constamment, qui est séparé par...
Une alternance de marche ou des trucs qui montent en parallèle, des séquences d'accords.
Ça s'en vient. En fait, ici, vous observez la mesure 89 à 108, une alternance systématique de deux types d'objets harmoniques. On avait dit qu'il y avait deux grandes... On pourrait regarder le langage harmonique de Bach à Wagner avec deux grandes figures de constantes. Des formules, des marches. Des formules, des marches. Ici, il y a une alternance systématique. Une formule, une marche. Une formule, une marche. Une formule, une marche. C'est ce qui devrait frapper d'abord, avant d'entrer dans le détail. Une alternance systématique de deux types d'événements contrastants. La formule apparaît avec quel caractère? Donnez des adjectifs quand elle sonne, la formule. Je voudrais que vous l'entendiez sonner sans que vous l'ayez écouté. Vous regardez le texte, là, et ça va sonner comment, cette affaire-là? Juste à la lumière de l'écriture, de la figuration.
Ça, c'est beaucoup plus harmonique que mélodique.
Non, je ne peux pas avoir des adjectifs de musicien. Des adjectifs de non-musicien, des qualificatifs de non-musicien.
Comme si la musique arrêtait, parce que le rythme arrête. Hein.
Ah, vous n'avez plus le rythme, c'est un mot de musicien.
L'élan est brisé.
Alors, il y avait un élan qui est donné où? Qu'est-ce qui donne l'élan? Donc, il y a une formule dans laquelle il y a un événement dans lequel il y a plus d'élan que d'autres, que l'autre. Alors, le premier est caractérisé par quoi? Bon.
Des notes aussi.
Pardon?
Des notes continues.
Des notes, un vocabulaire de musicien, ça. Majestueux, solennel, serein, tranquille. D'accord? Alors, c'est ça que je m'attendais que vous sortiez, ces adjectifs-là. majestueux, solennel. Bon, c'est ça. Puis l'autre. Alors, le deuxième, un caractère de turbulence, d'intranquillité. Pour paraphraser Pessoa, le plus grand poète portugais. L'intranquillité. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Simplement une alternance systématique entre deux types d'événements contrastants. D'accord? Un premier qui est majestueux, serein, tranquille, et l'autre. Et le premier est quoi? C'est une formule. Si on regarde sur le plan musical, maintenant, ça correspond à une formule d'installation. Tandis que le deuxième renvoie toujours une marche. Marche harmonique, marche mélodique. Ça va? C'est ça qui devrait d'abord vous frapper. Pas d'entrer dans le détail de la musique d'abord. D'entrer dans le caractère de ce qu'on reçoit comme émotion. D'accord? Premièrement. Ensuite, vous essayez de détailler avec quoi ça a été fait, ça, ce machin-là. Alors, et en général, qu'est-ce que vous avez remarqué maintenant si on regarde le parcours tonal? En général, les deux premiers événements, d'abord le majestueux suivi, le majestueux solennel suivi du turbulent, en général, se rapportent à la même tonalité. D'accord? Alors, allons-y. Le majestueux établit d'abord deux mesures de majestueux contre deux mesures de turbulent. Deux mesures de majestueux, deux mesures de turbulent. Deux mesures de majestueux, deux mesures de turbulent. Deux mesures de majestueux, deux mesures de turbulent, remajestueux. Là, il y a un petit changement. Remajestueux. Ensuite, là-haut, là, il y a une, deux, trois mesures. On verra pourquoi il est obligé d'en faire trois ici. Trois mesures de turbulent et fini. Et c'est la majesté qui l'emporte. La sérénité l'a emporté sur la turbulence. Essayez de voir ça d'abord en dehors de l'analyse proprement dite. Là. Parce que comme vous êtes un cours d'analyse harmonique, vous en avez tout de suite d'analyse harmonique? Non. L'analyse harmonique, c'est pour aller voir comment s'est fait cette chose-là qui nous est donnée. Alors, la première formule de majesté introduit quel ton, Marie-France?
Si mineur.
Absolument. Et vous avez un rythme harmonique qui est quoi? Quel est le rythme harmonique? Il est à la blanche. Hein?
Oui,
deux fonctions par mesure. À la blanche. Alors, donnez-moi votre contenu harmonique de la formule de majesté.
1, 2, 5, 1.
Oui, 1, 2, 5, 1 sur la base. C'est le temps de récapituler. On a vu ça souvent chez Bach d'avoir un 1. Absolument. 4, 7, 3, 6. Au lieu du 2, 5, 5, 5. D'accord. Et on recommence avec la formule de majesté. Et le début de la formule de majesté coïncide avec la fin sur le plan harmonique, si vous voulez, de l'épisode précédent. Hein? Vous remarquez quoi ici? Qu'est-ce qui pourrait vous étonner, compte tenu de ce que vous savez, de ce que vous avez appris par rapport à la conduite des voix, par exemple, par rapport au traitement des accords de septième? Qu'observez-vous ici? N'importe qui. Tout le monde. Questionnez. Un parallélisme. Par exemple, le premier accord qui est là, c'est un accord de septième mineur. D'accord? Et il est est en train de faire du parallélisme. On n'a pas attendu Fauré ou Ravel ou Debussy pour faire du parallélisme. En voilà. C'est des choses qu'il ne ferait pas s'il n'était pas en train d'arpéger. D'accord? Là, il fait un discours arpégé. Aucune septième n'est résolue comme elle devrait l'être par la même voix. Aucune septième n'est préparée. C'est un accord de septième mineur. La septième devrait être préparée, entendue par la même voix, même en l'accord précédent, comme il l'a fait quand il y avait un accord plaqué dans la mesure 89, par exemple, sur le troisième temps. Si la septième est à la basse, c'est un accord de do dièse mi sol si elle est préparée. C'est tout comme moi, comme un dans l'accord suivant. Mais là, vous entrez dans un tout autre discours. Et là, ils s'affranchissent complètement des contraintes par rapport aux accords de septième. La septième est préparée, la septième est résolue. Ce n'est pas votre affaire à vous, parce que vous, vous travaillez toujours sous forme de chorale. D'accord? Et vous remarquez ici un parallélisme d'accord de septième. 4, alors 1, c'est un accord de septième mineur. 4, accord de septième mineur. Et vous remarquez qu'à ce moment-là, il y a toujours une note sur le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un groupe de 7, hein? D'accord? Ce sont des septolets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont tous des septolets. Tout le monde s'en va frapper. Septolets. D'accord? Et la quatrième et la sixième note du septolet sont toujours ornementales. Ça va de soi. C'est l'accord de si ré fa la qui est là. Alors, notes 4 et 6 du septolet sont ornementales avec des notes de passage. Alors, vous avez un accord. Donc, si on enlève les notes ornementales et que je plaque l'accord, ça devient un accord de septième mineur. Septième mineur, c'est normal. Si on fait des accords de septième mineur dans un cycle de 15, d'accord? Septième mineur, septième mineur, septième dominant. Tout à fait normal sur 7. Mais qu'est-ce qui est anormal ici sur 3? Est-ce que ça vous a frappé? Avec la quinte augmentée, septième majeure. Surtout dans mon édition, il y avait un autre dièse oublié. Il ne ferait pas ça dans un accord plaqué. Mais comme il est arpégé, ça donne ceci. C'est un souci tonal, d'accord? Si ça lui suffit un accord de... Ça devrait être quoi comme accord ici à ce moment-là? Un accord de septième majeur. Normalement, s'il était plaqué, ce serait un accord de septième majeur. Mais s'il le fait arpéger avec des notes de passage, ça lui donne ceci. Ça lui donne l'occasion de faire un petit mouvement sensible tonné. Donc, une affirmation totale supplémentaire. Ce qui ne serait pas là si c'était plaqué. Prenez conscience de tout ça, de tout l'intérieur. D'accord? Ça va comment il fonctionne. Quand l'accord est arpégé avec des notes de passage, il va aller chercher des petits motifs sensibles toniques, sensibles toniques. Pour nous flatter dans le sens tonal. Le 6 est ordinaire, l'accord de septième majeur. Et le 5 de 5, et non pas un 2, 5 de 5. Donc, une affirmation tonale très très forte. Là. C'est plus modal, là. On n'est plus dans le modal, on est vraiment dans une affirmation tonale très forte. 5 de 5, 5 d'abord sous la forme de l'accord de septième dominante, ensuite sous la forme de l'accord de septième diminué. D'accord, ça va être 5 sous deux formes. Ça va? Vous avez compris comment ça fonctionnait. Alors, voici un cycle de quinte, mais utilisant du parallélisme. Ce qui fait que donc les accords de septième sont d'aucune façon préparés ni résolus. Et vous rencontrez à ce moment-là, au moment de la fonction 3, un accord non seulement septième majeur, mais avec quinte haussée à cause des notes de passage qui sont en dessous. Et voilà, d'accord? Voici pour le premier. On a donc établi nos deux figures contrastantes, la figure de majesté. J'imagine que vous connaissez en architecture le terme de Christ en amande, non? L'architecture baroque, non? Baroque. Roman, l'art roman, surtout en Bourgogne. Alors, vous avez le Christ en amande, ça ne veut dire rien, ça. Vous n'avez pas visité d'église romane, non? Alors, vous irez un jour. Je suis très peu habile en dessin, vous le savez déjà, tout croche. J'essaie de faire les deux côtés pareils, ça n'a rien à voir. En tout cas, vous savez quelle est la forme d'une amande, d'accord? Alors ici, il y a un Christ ressuscité, la tête du Christ, bon, ça ne dépasse pas l'amande. Bon. Et puis voici sa figure avec les pieds qu'on voit dépasser comme ça, là, voilà. C'est ça qu'on voit au frontispice, dans les églises baroques à l'entrée, soit à l'intérieur, du tympan, c'est dans le tympan que ça se trouve, qui surmonte à l'intérieur du narthex ou bien du vestibule d'entrée. Alors, c'est ce qu'on appelle le Christ en amande. Pourquoi? Parce qu'il est toujours situé dans une niche qui a l'apparence d'une amande. On parle aussi du Christ en majesté. Et à chaque fois que j'entends cette formule-là, pour moi, là, c'est ça. Je vois se dresser le Christ en amande dans le, au frontispice des églises romanes. Il faut avoir d'abord visité pour voir surgir cette image-là. D'abord, ils sont back, religieux. Alors, pour moi, c'est ça que ça évoque. En amande ou du Christ en majesté. Ça, je dis pas, je parle de la formule de majesté en même temps. D'accord? Tout ça, ça va ensemble. C'est ça que ça devrait faire surgir. Ensuite, ici, en général, autour, il y a des anges qui volent. Alors, tu as tiens. D'accord? C'est ça. Alors, c'est pour moi tout à fait l'image de ça. Les deux figures contrastantes. Les images, le vol des anges autour, un tourbillon, un essaim d'anges tourbillonnant. Autour du Christ en majesté, le Christ en amour. Ça va? Pour saisir, ayez des émotions visuelles, sensuelles, de quelconque que ce soit, mais commencez par entrer dans vos partitions musicales, pas avec le détail d'analyse harmonique. D'accord? C'est à ça que je vous invite, de plus en plus. Tout le monde risque de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, on a analysé nos deux principes contrastants, le principe de majesté, 1, 2, 5, 1. Marquant qu'on avait le 1, 2, 5, 1 sur la base. Ensuite, le cycle de quinte. Et d'accord, septième mineur, septième dominante, septième majeure de la quinte aussi, parce qu'on a affaire à un accord arpégé dans lequel il y a des notes de passage et du mouvement sans étonner. Septième majeure, septième dominante, septième diminuée. Avec toujours la note de passage sur, sur les notes 4 et 6 du septolet. On revient à notre figure de majesté. Les anges viennent, on finit de regarder les anges, on retourne à regarder le Christ en majesté qui a changé de lieu. Parce que vous êtes à la fin d'une journée très très chaude, puis vous commencez à avoir des étourdissements et le Christ commence à changer de lieu. Ça peut arriver. Alors, Olivier, quelle est l'installation maintenant de ce nouveau... De cette figure de majesté qui revient.
1, 2.
Non, mais dans quel ton? Dans quelle assise? Dans quelle corniche se trouve-t-elle située?
Moi, j'ai réalisé un signe.
Vous avez tort. Alors, l'analyse ici, c'est ceci. La première. Rendu en sol majeur. Il n'y a plus rien en tout de si mineur. D'accord? On est rendu en sol majeur. Alors, faites l'analyse. Donc, on a modulé à quel moment? On est revenu avec l'accord de si mineur, qui était 1 en si mineur, qui devient quoi en sol majeur? 3. Et le deuxième accord, parce que j'ai toujours le rythme harmonique, premier temps, troisième temps, 1 égale 3. Et ensuite, 5 de 5. Ses appoggiatures sur le troisième temps. D'accord? Une appoggiature en 5, 2, 5, 5, 1. Et qu'observez-vous cette fois-ci? Il y a une marche. Le deuxième principe turbulent, contrastant, le vol des anges, l'essai des anges flottant. On va avoir tout manqué ça. Et puis, on est avec quoi? Alors, qu'observez-vous ici, toujours Olivier? Parallélisme d'accord de septième diminuée, c'est une marche. Descendant. Bon, alors vous vous dites, avec un parallélisme chromatique descendant, un parallélisme, c'est pour ça que je vous ai donné ce mot-là, ça faisait suite au cours qui portait les points à l'ordre du jour sur le parallélisme d'accord de septième diminuée. C'est une marche, ça paraît traité comme marche. Et là, comme ça descend, vous avez trois perspectives d'analyse. Ou bien c'est un fragment ornemental, ou bien c'est un cycle de quinte non modulant par cycle dominant secondaire, ou c'est un cycle de quinte modulant à chaque fonction, 5, 5 de 4 égale 5. Qu'avez-vous choisi, Olivier?
Moi, j'ai choisi un modulant à chaque
étape. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pris une autre partie? Ceux qui ont travaillé la partition, il y avait 4. Ils ont travaillé la partition.
J'ai mis ornemental, fonction ornemental.
Vous avez choisi l'ornemental. Maxime Goulet, vous avez travaillé aussi.
Oui, ben j'hésitais entre les deux parce que ça fonctionnerait avec le 5 de 4, surtout qu'on arrive à la fin, mais le début, je n'étais pas sûr.
France, Marie-France, qu'est-ce que vous aviez choisi? Pourquoi? Sur quoi vous fondez votre perspective et votre choix? Parce que vous avez raison, c'est l'ornemental. Je n'accepterai aucune autre perspective.
Je suis allée
par l'éducation. Ça ne compte pas. En analyse, là, on a besoin d'autre chose. Ben, je sens ça comme ça. Là, on sort du domaine de la perception du début là, pour entrer dans une analyse rigoureuse.
Peut-être parce que l'enchaînement entre le premier dilué et le 1, je ne savais pas comment l'expliquer.
Non.
Toutes les voies sont prévues au moment qu'on
veut.
Non. À cause du premier temps de la mesure.
Mais c'est toujours ça, par exemple, d'accord, cette thème du nuit, David. Je ne l'ai pas relevé, mais je vous le relève. On n'a rien entendu de ce côté.
Parce qu'on commence, on finit dans le milieu.
Bon. Personne ne voit ça, là.
Mais je le sais. Le cycle des quintes n'est pas brisé à la mesure 97, premier temps.
Ça n'a rien à voir. Bon, alors c'est dommage qu'on n'y ait pas vu ça. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez en parallèle, parce que vous avez vu toute la partition, c'est-à-dire ces deux dernières pages, mesure 89 à 108, vous comparez 116, 116, vous regardez, etc., ce qui revient, ce qui ne revient pas. Avez-vous vu que le même parallélisme revenait ensuite quatrième système de la deuxième page, parce que vous avez les deux pages côte à côte et non pas l'une sur l'autre, j'imagine. Ça se fait pas. Jamais. Jamais personne ferait ça ici dans cette classe que d'avoir deux pages l'une sur l'autre alors que vous pouvez rien voir de ce qui s'en vient. D'accord? Deux pages. Je dis pas quand on a une partition qui a 90 pages. Là, c'est difficile de les mettre. Mais quand même, vous mettez dans une grande pièce, vous louez un loft et puis vous mettez les 90 pages l'une à côté de l'autre. D'accord? C'est ça qu'il faut faire pour analyser. Alors ici, on peut facilement avoir deux pages. Si vous observez ce qui se passe, mesure 106, là, en fait, quatrième système, regardez bien. Tantôt, on partait de l'accord un accord du septième diminué sur mi. D'accord? Je reprends mon premier, là où on était rendu, là. On se rendait jusque-là. D'accord? On a arrêté sur un accord de septième diminué sur la, si je les plaque. Si on va voir la dernière fois que le motif turbulent, que la figure turbulente apparaît, il part d'un accord de septième diminué sur mi. Et il finit sur un accord de septième diminué sur ré dièse fa dièse la do, qui est le même que l'autre. Pas vrai? C'est aussi un parallélisme d'accord de septième diminué. Pas vrai? Mais celui-ci, il est ascendant. Donc, il ne peut relever que d'une perspective, d'accord, à fonction de mental. N'est-ce pas? Mais comme le grand principe qui coiffe tous les autres, c'est uniformiser la perspective d'analyse, vous uniformisez donc, et vous aboutissez un passage ornemental. Pourquoi il y a dû faire une mesure de plus alors que toutes ces figures-là, ces éléments, étaient à deux mesures chacun? Deux mesures chacun. C'est que quand il est parti en descendant, ça lui donnait du mi-sol, la dièse, do dièse, mi-sol, la dièse, do dièse, il est descendu à ré dièse, fa dièse, la do, c'est ça? Non, il est arrivé sur le la do. Il est arrivé sur le la, il est descendu, là, tchong, 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 puis il est arrivé sur le la, do, ré dièse, fa dièse. Ré dièse, fa dièse. Il est descendu si peu que ça. Oui, c'est ça. Tandis que quand il le monte, il part de quoi? De quelle hauteur? Il est en clé de fa, il aboutit à la clé de sol. Toujours en clé de fa, il part du mi-sol ici, mi-sol, la dièse, do dièse. Puis il va monter, toc, 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 jusqu'au ré dièse, fa dièse, la do. D'accord? S'il veut rejoindre la même chose sur un temps fort, c'est-à-dire il part d'un premier temps puis arrête sur un quatrième temps. Ça, il partit d'un premier temps pour arrêter sur un quatrième temps. S'il veut partir d'un premier temps pour arrêter sur un quatrième temps, alors en ayant le même point de départ et le même point d'arrivée, c'est impossible de faire ça en deux mesures. Il est obligé d'en faire trois. Est-ce que c'est clair? C'est la seule raison pour laquelle il fait trois mesures. D'accord? Alors, on prend le premier. Alors, son compte est 1, 2, 3, 4. Il arrive là. D'accord? Il est parti d'un premier temps pour arriver à un quatrième temps. Puis là, on repart du en bas. On monte. Cette fois-ci, on part du mi. 1, 2, 3, 4. S'arrêter sur le quatrième, là, je ne serais pas rendu au même accord. Il est obligé de continuer. 1, 2, 3, 4. Il veut s'arrêter sur un 4, il est parti sur un 1, il s'arrête sur un 4, en ayant le même accord au début et le même accord à la fin. C'est la considération technique qui fait qu'il ajoute une mesure supplémentaire. D'accord? Il va avoir le même. Mais cette chose-là, bon, celle-ci, c'est bien sûr, donc une perspective ornementale dans les deux cas. Comme on veut aussi uniformiser la perspective d'analyse, si possible, et rester en sol majeur avec ça, on est parti avec le pour le verbe. On voudrait s'arrêter, comme tout à l'heure, on s'est arrêté sur 5 en mi mineur. Quand on a fini de regarder les anges voler, là, ça finissait sur 5 en si mineur. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur 5 en sol majeur? La, do, ré, dièse, fa, dièse. Ben oui, la, do, ré, dièse, fa, dièse. C'est le dernier accord du paradisme, là, ici. Dernier accord du motif turbulent, de la figure turbulente. D'accord? C'est un quoi? C'est 5. 5, votre mix, vous voulez, mais c'est l'accord de fa, dièse, la, do, mi, bémol. D'accord? Et on est parti avec quoi? Donc, on donne une fonction harmonique au premier de la chaîne, une fonction harmonique au dernier de la chaîne, et ça vous donne quoi pour le premier? En sol majeur? 5 de 5. 5 de 5. 5. On arrive à 5. On donne une fonction harmonique au premier de la chaîne, une fonction harmonique au dernier de la chaîne. On arrive à 5 de 5. 5. On va se rendre ensuite, on attendait, tiens, bon, surtout qu'on venait de faire 5. 5, 5, 1. On aboutit à 5, puis le suivant, ce sera un 5 de 4. D'accord? Mais c'est la même chose. Pourquoi c'est tout le monde en retard aujourd'hui?
Mais ça va pas. C'est une bonne raison.
C'est bon, ça comme ça. Je me pose la question à moi, pas vous. Sol majeur, mais en même temps, où est-ce qu'on s'en va dans le prochain épisode de Majesté, là? Tonal des baroques, privilégié par les baroques, c'est-à-dire on est parti de la dominante, le ton de si mineur, on passe par le ton de sol majeur et on aboutit à mi mineur. D'accord? C'est comme ça. Je vous en avais déjà parlé, ça, le parcours tonal privilégié par les baroques. Il s'agit d'épeler, d'arpéger, si vous voulez, les notes de la tonalité mi sol si. D'accord? On part donc du ton de si mineur, on passe par sol majeur et on revient en mi mineur. D'accord? Le parcours tonal des baroques. On est revenu chez soi. Mais vous remarquez que ça, donc ça devient une espèce d'ensemble qui est à la fois commun à deux tonalités, compte tenu des notes ornementales. Je n'expliquerai pas tout ça. Ici, on est entre le ton de sol majeur et le ton de mi mineur. Mais ce parallélisme d'accord de septième diminuée relève aussi bien du ton de sol majeur que du ton de mi mineur. Et à ce moment-là, je mets ça comme ça. D'accord? C'est aussi bien 5 de 5, hein. C'est d'ailleurs écrit par rapport, l'orthographe est écrite et là, par rapport au ton de mi mineur. La dièse, do, dièse, mi, sol, c'est 5 de 5 en mi mineur. Et la, do, ré, dièse, fa, dièse, c'est 5 en mi mineur. D'accord? Alors, cet ensemble-là, il relève aussi bien du ton de sol majeur qu'on est en train de quitter que du ton de mi mineur vers lequel on se dirige. C'est aussi 5 de 5, 5, 5 de 4. L'avantage et le privilège de l'équivocité des accords de septième diminuée. Quelles sont les notes de 5 de 5 en sol majeur? Toujours sur la forme de l'accord de septième diminuée, on parle de parler des accords de septième diminuée. Donnez-moi une note de l'orthographe. 5 de 5. Do dièse, mi, sol, si, bémol. Il est écrit ici, mi, la dièse, do dièse, d'accord? Et 5 sur la forme de l'accord de septième diminuée en sol majeur, c'est 5 modes mixtes. Donc, fa dièse, la, do, mi, bémol. Maintenant, 5 de 5 en mi mineur, c'est la dièse, do, dièse, mi, sol. Et 5 en mi mineur, c'est la dièse, fa, dièse, la, do. Et 5 de 4 en mi mineur, c'est quoi? C'est sol, dièse, si, ré, fa, bécart. D'accord? Ici, l'orthographe est nettement renvoyée au ton vers lequel on dirige. Regardez l'orthographe de Bach, nettement dirigée. Mais on peut aussi à cause de ce qu'on vient de faire antérieurement, on avait vu que les anges continuaient à voler dans la même niche que celle du Christ en majesté. Là. Les autres ne savent pas de quoi je parle, tant pis pour eux. Et voilà, on est rendu là. Alors voici ici de réaliser que ce paralyse d'accord de septième nuée réunit, si vous voulez, les deux tonalités. Dans ce temps-là, je fais une double analyse, c'est-à-dire sol, mi, vous superposez. D'accord? Vous faites toujours partir de cette manière-là. C'est à la fois 5 de 5, 5, 5 de 4 en sol majeur et 5 de 5, 5, 5 de 4 en mi mineur. Donc, on attend quelques 5 de 4 en mi mineur. Là, il y a beaucoup plus d'appoggiatures que tantôt. Regardez les appoggiatures qui s'additionnent, le degré de complexité croissant établi par un mineur musicologue, Joël, je ne sais plus trop qui. Et ensuite, 5, 1. Et vous notez aussi le laxisme qu'on observe à l'occasion de l'emploi du corps de septième nuée. Il y a sol, sol dièse, on aurait pu penser qu'il serait allé au la. Avec la même chose qu'on avait tantôt, mais encore quelque chose de différent. Il est rare que Bach fait exactement la même chose. Très, très rare. Voilà, c'est Joël Lester. C'est une superbe chose écrite. C'est un violoniste qui était à Juilliard School, qui à un moment donné, quand il faisait violoniste éminent, virtuose, et quand il était étudiant à Juilliard School, enviait les pianistes de voir qu'ils avaient toutes sortes d'ouvrages qui portaient sur l'analyse du clavier bien tempéré, alors qu'il n'y avait absolument rien qui portait sur les sonates les suites et sonates pour violon sol de Bach. Alors il s'est dit, bon, moi je vais faire tout mon cours, je vais sortir quelque chose là-dessus. Il a fait un superbe livre là-dessus. Il fait ressortir un seul point. Il y a une seule thèse à défendre, c'est que dans l'écriture de Bach, on a toujours une complexité croissante dans n'importe quelle œuvre. À un moment donné, il prend un prélude de Bach, puis il prend un prélude de Paganini, l'un à côté de l'autre, qui présente à peu près la même architecture. Puis là, Paganini, ça n'a pas changé de complexité, on a toujours le même degré de complexité du début jusqu'à la fin. Puis chez Bach, le degré de complexité est toujours croissante. Il apprend jamais la même chose de la même façon. C'est ça. Alors c'est ça qu'on voit ici aussi. Tout à l'heure, il a fait son... D'abord, il a augmenté ses appoggiatures, hein, augmentation des appoggiatures. Et ensuite, tout à l'heure, on avait par deux les accords de septième dans son cycle de quinte. 1, 4, 7, 3, 6, 5, 2, 5, 5. Par deux, en montant, en descendant. Cette fois-ci, on commence très bas, puis on monte tout le temps. Et là, vous voyez une marche de type numéro 1, classée dans les marches descendantes, mais formulée de manière ascendante. C'est bien indiqué qu'on ne doit pas se fier à la formulation ascendante pour classer une marche ascendante ou descendante. Ici, vous avez le 1, le 4, le 7, le 3, le 6, le 5, le 5, le 5, avec rigoureusement les mêmes accords, mais on obtient quand même les points extrêmes du registre. C'est rare que Bach va faire tout ça. C'est un registre très, très large d'obtenir ça ici, ce qu'on n'avait pas du tout comme tantôt. Tantôt, on n'avait pas cette largeur du registre. On est parti de très bas, on est allé très en haut. Complexité croissante au niveau des registres. Ça va? On monte tout le temps. Ça, c'est des choses intéressantes que ça fait ressortir. Alors, 1, 4, 7, 3. Il faut noter encore une fois cet accord de septième majeure qui a été aussi. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un accord arpégé. Il se permet de s'en faire un petit mouvement sensible tonique à l'intérieur. 6, 5, 2, 5, 5, 5. Et là, on ne voit plus modulé. On est revenu dans le ton principal. Ça, c'est important de savoir ça. Retour en mi mineur. On ne retourne plus en arrière. Donc, cette fois-ci, que savez-vous de Bach vers la fin de l'œuvre? Qu'est-ce qu'il va chercher sur le plan du parcours tonal? On ne module plus, mais qu'est-ce qui va se passer dans la fin de l'œuvre? On va aller saluer bien bas quelle fonction? Quatrième degré. Ouais. Il va s'apesantir sur la fonction 4 et on va le voir ici. La formule de majesté. Une autre façon de traiter l'appoggiature. Toujours en mi mineur, allez-y.
Ok, ben, à partir de 5.
Oui.
J'ai fait 1, 4, 5 de 4, 4.
Puis après, 4, vous avez un accord de Fa bécard, La, Do, Mi. Souvent chez Beethoven, le 6 de 4, le faux M6 simplement qui apparaît comme 6 de 4, 5 de 4, 4. On a vu ça trois fois chez Beethoven cette année. Et le voilà. Ça. 6 de 4. Ensuite, si, ré, dièse, mi, sol. Voici l'accord. Si, ré, dièse, mi, sol. Et ensuite, la, do, ré, dièse, fa, dièse. La, do, ré, dièse, fa, dièse. Vous avez un parallélisme. D'accord? L'accord de fa, dièse, la, do, mi, en mi, c'est quoi? Deux. C'est bien ça? L'accord de fa, dièse, la, do, mi. Deux. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez un parallélisme d'accord que vous envoyez à quoi? Au plan ornemental, voici le 2 suivi de 5. D'accord? Tout ça, c'est 4 notes de passage. 2, et ensuite il ouvre. Alors, 2, alors 2, 5, et après ça, 5, 6, oh non. 5, 5, je joue juste ça. 5, 1. Sous-entendu, c'est un. Ensuite, là, on retrouve notre formule de majesté. Qui fait quoi? 6, 2, 5, 1. On est toujours en mi mineur. 6, 2, 5, 1. Tel que vous avez travaillé à quatre voix strictes cette fois-ci. 6, 2, quelle est la note qui est doublée dans deux premiers inversements? Le La. D'accord? Le 6, 2, tel que vous l'avez travaillé, c'est absolument strict comme écriture. 6, 2, 5, 5 de 5. Et c'est là qu'on apprend tout à l'heure que notre point de départ était 5 de 5, parce qu'on pouvait se demander quel point de départ on avait tantôt. Ici, on le sait, c'est le même accord qui redémarre. D'accord? Là, on sait que c'est un 5 de 5. 5 de 5, puis comme c'est un parallélisme chromatique ascendant d'accord du 7e diminué, ça fait 5 de 5, note de passage, note de passage, note de passage, note de passage, 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 regardez ici, le 2-5-1. On entend le mi en dessous. 2. Après 5, qu'est-ce qu'on cherche les enfants? 1. C'est fort, mais on n'a que sol, si, puis là, c'est la fondamentale qui est sous-entendue. On entend très, très bien le mi. On a étant mi depuis tantôt. Ensuite, 6, 2, 5, belle cadence évitée avec un 5 de 5. Alors, je vous rappelle les deux types de cadences évitées les plus fréquentes de Bach à Wagner. La fonction 5 est suivie d'un 5 de 4 ou d'un 5 de 5. Et quels sont les deux types d'accords les plus souvent utilisés au moment des cadences évitées 5 de 5, 5 de 4? Accord de septième dominant ou accord de septième diminué? Et on repart de cet accord de septième diminué. Voici notre 5 de 5. Puis au bout de la chaîne, on trouve le 5, 1, 5 de 5, 5. Mettre ce qui va ensemble, vous dites, c'est la fin qui vous apprend les choses très souvent. L'analyse est un geste rétroactif. C'est facile d'analyser, par exemple, à partir au moins du dernier, des trois derniers systèmes. On entend très bien 6, 2, 5, 5, 2, 5. On voit bien qu'il est reparti avec le même accord 5, 2, 5. Comme c'est un parallélisme chromatique ascendant d'accord de septième diminuée, il ne peut être logé qu'à l'enseigne ornementale. Et ensuite, on donne une fonction harmonique au premier de la chaîne qui est nette parce qu'on avait le même accord que celui qui nous, a fait, qui nous avait amené la cadence évitée. 5, 2, 5, on se retrouve avec le 5. Voici le 1. Comme on avait le 5, alors allons chercher le quatrième système, première mesure là, qui était incomplet. 5, 1, c'est la même chose que ça. Entendez-vous que c'est la même chose que ça donne? 5, 1, là, même d'accord. Septième diminué, 1, le mi est absent. Et ici, ça c'est le si qui est absent. On l'entend 5, 1 les deux fois exactement. 5, 1, ensuite 5, 1. Ça, c'est la même chose deux fois. Ça. Alors, on revient en arrière pour dire, ah, si j'ai un parallélisme chromatique ici de l'accord de septième diminuée, tantôt il descendait, donc je vais inverser ma perspective d'analyse. J'ai le même accord au départ qu'à l'arrivée, je vais dire que c'est un 5 de 5, 5. Les deux fois, il est en mi, parce qu'on arrivait sur mi, mais il pourrait aussi convenir au ton de son majeur qu'on est en train de quitter. Puis là, vous mettez tout ça ensemble. Tu travailles. Analyser, c'est tout un travail de réorganisation de la partie pour trouver ce qui va ensemble, ce qui ne va pas ensemble, etc. Est-ce que vous comprenez quel travail d'analyse, comme ça peut être, bon, moi, c'est passionnant, je trouve ça passionnant de faire ça. Vous avez à construire une organisation pour en compte de l'organisation de Bach. Et Bach, c'est quand même pas n'importe qui. C'est drôlement construit. C'est mathématiquement construit. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Ce texte-là est clair. Oui? Alors, vous avez toujours le Christ en majesté, avec le vol des anges en bourdon tout autour. Avec l'immense contraste dans les termes. Les 18 textes. Commençons par la page 8 de vos 18 textes. Les fragments 11 et 12. Les mécanismes modulatoires 11 et 12 qui vous avaient donné le plus de mal. Chaque fois que vous analysez, commencez par la fin. Commencez d'abord par écouter l'œuvre. Et ensuite, vous commencez par la fin. Vous allez gagner énormément de temps par rapport aux intentions de l'auteur, intentions de composition, d'organisation de la partition. Alors, je suis à la page 7 de vos 18 fragments donnés pour identifier le mécanisme modulatoire. C'est au tableau. Si vous n'avez pas commencé par la fin, ça doit être onéreux. Mais si vous commencez par la fin, ça devient assez simple. Vous regardez, il y a des phrasés, vous regardez le dernier phrasé. Et vous vous retrouvez avec toujours, parce que vous avez toujours le petit catalogue du vocabulaire harmonique. Alors, ça revient à ça, dans les métaphores religieuses. Vous avez cette formulation. situation-là qui arrive deux fois de suite. Je fais 17 et 18. 17 sur le deuxième ton. Et l'autre. On s'attendait à ça. Vous voyez, c'est une formule la plus fréquente, d'après moi, la formule de cadence la plus fréquente de bac à la terre. C'est ça, mi fa sol do. Là, on dit les mots de fa sol do, si vous attendez. Est-ce que c'est clair, ça? Cette formule-là est très, très, très simple à aller chercher, à repérer. Elle est là. Donc, on entend pour finir. Donc, vous êtes sûr que ça finit en quel ton? Sol mineur. Bon, c'est déjà une tonalité de repérer. C'est facile, ça prend quelques secondes de repérer ça. Et vous avez le 1, je pars du deuxième ton après le triolet. 1. Avec ceci, c'est 1, 3, 4 ou 2 ou 6, 5. Et pas les 1. On va voir plus en bas. 1, 4 ou 2 ou 6, c'est N6. 5. 5 de 5. Encore une cadence évitée. Bach nous a appris comment faire des cadences évitées. On les fait la plupart du temps avec un 5 de 5 ou un 5 de 4. Et au moment du 5 de 5 ou 5 de 4, l'accord l'utiliser est soit l'accord de septième de dominante, soit l'accord de septième diminuée. Est-ce que c'est clair pour vous comme constante dans le langage bacaminaire? J'ai répété ça plusieurs fois comme constante. Le voilà. 1, premier inversement. N6, et que se passe-t-il? Le soprano et la basse s'en vont par mouvement contraire. Ça aussi, il faut regarder comment ça s'écrit. 1, N6, 5, avec une appoggiature, 5 de 5, cadence évitée, avec un 5 de 5. L'accord de septième diminuée, 5 de 5. Et ensuite, on va chercher ce qui s'est passé en si bémol juste avant, je repars à la mesure, donc 17, 1 premier inversement. 4 ou 2 ou N6, ici c'est un 2, par mouvement contraire également, c'est comme une sorte de marche. 1, 2, 5, et là, si vous regardez la basse, on se dit, ah bon, mais c'est 5 heures, oh, vous laissez avoir, par la fameuse cadence rompue des romantiques. Les romantiques font leur cadence rompue avec quoi à la basse quand ils sont en do, mettons? Ils vont faire sol, do, 5, 1, premier versement, c'est toujours ça, ou bien ceci, 5, 5, 6, puis 6, premier versement. Ça, c'est leur façon de faire les cadences rompues chez les romantiques. Ils donnent l'illusion de faire une cadence parfaite, d'accord, à la basse. D'accord? Ils adorent faire ce petit jeu-là. Vous jouez un bon tour, quoi. Ouais. D'accord? Alors, le voilà. 1, 2, 5, 6 égale 1. Il me dit 6 égale 1. Vous retenez-le comme ça peut aider, parce que si à la fin de l'année, ça revient, vous entendrez 6 égale 1. D'abord, vous regardez le triolet. Vous dites, ouh, le triolet. Vous avez un accord. Bien sûr, on aurait pu avoir un accord de si bémol ré fa la. On peut faire une cadence avec le 1 septième majeur. C'est possible. Bach l'en fait. Mais si vous regardez bien ce qui se passe à la main gauche, j'avais si bémol, la sol. Tout ça est contenu dans le premier temps. Donc, c'est l'accord de sol mineur avec le la, note de passage, dans le triolet à la main gauche. D'accord, c'est l'accord de sol mineur. Que fait le la à l'alto à ce moment-là? Appoggiature du sol. Qui va se résoudre vraiment là? Alors c'est 6 égale 1. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas trouvé de 6 égale 1 à ce moment-là. D'accord? C'est 6. C'est. Et la résolution de l'appoggiature de l'alto se fait là. Est-ce que c'est clair ça? Bon, alors vous avez un ton de sol mineur pour finir. Un ton de si bémol majeur. Vous êtes censé avoir trois tons seulement dans cette sonate, puisque j'ai demandé de repérer deux mécanismes modulatoires. Vous allez en arrière, puis là, vous voyez que la mesure 14, par exemple, on va chercher les deux derniers accords, mesure 14, on entend. Là, ça reste là. Bon, si on regarde juste mesure 14, 15, 16, dans quel ton? 5, 5, 5. Sonne 5 de 5, 5. On était donc en si mineur pour ces trois mesures-là, mesures 14, 15, 16. Vous n'avez pas besoin même d'aller voir le reste. Vous avez donc quitté le ton de si mineur avec quoi? Un 5? Le dernier accord sur le troisième temps, parce que les accords s'affirment sur les premiers temps, troisième temps, premier temps, troisième temps. Troisième temps de 16. Le 5, vous voyez quoi? Et là, vous retrouvez ce petit motif-ci. Oh! moment-là, vous cherchez un 5. Le 5, c'est extrêmement là-dessus. Un 6-4 qui est là, qui fait office de 5. Au lieu de faire ti ya ya fait ti da ya, cadence imparfaite, s'il vous plaît, pour revenir au geste imparfait. Alors, 5 égale 5 de 5, c'est extrêmement. Un 6-4 pour ma propre double appoggiature de 5 sans solution. Ensuite, 1, 2, 5, 6 égale 1. C'est complexe, mais c'est ça. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire, non? Ça ne prend pas tant de temps. Ça, c'est pas si difficile, à condition de commencer par la fin et de regarder la ligne de base. Est-ce que c'est clair? C'est simple, hein? Très simple, finalement. Maintenant, je vous donne toute la partition juste pour voir. Je vais entendre, comme M. Poligny s'en vient, je vais entendre Poligny. C'est quand même pas Argerich. Je vais faire Argerich, mais là, je vais entendre Poligny. Depuis froid. C'est bon, un litanier froid. Ça existe. C'est comme un musicien. C'est un grand musicien. C'est un grand pianiste, Poligny. C'est un musicien raisonné. Raisonné. Alors, je fais entendre Poligny. Maintenant, je vous ai donné une feuille pour l'ensemble, d'accord? Vous l'avez reçue, c'est la première feuille sur votre pile d'aujourd'hui. Première feuille sur la pile d'aujourd'hui. Pour entendre tout le début, maintenant, jusqu'aux mesures 18, jusque-là, où on s'est rendu. Pour savoir comment ça fonctionne, c'est le début. C'est une forme sonate en si mineur. Chopin écrit 3 sonates, c'est la troisième en si mineur. Voici comment il fonctionne. Ça va nous aider ensuite à comprendre Schubert, éventuellement dans votre vie. Du premier groupe thématique. Et vous vous souvenez de la sonate en ré majeur qu'on avait analysée de Schubert? Ça a dû laisser des marques, j'espère, dans vos esprits, dans vos mémoires analytiques. Vous venez? Non, c'était une sonate en ré majeur. À l'intérieur du premier groupe thématique, il était allé ensuite en ré mineur, changement de mode. Il est allé ensuite en fa majeur. Là, à partir de fa majeur, il y a le premier fa majeur était devenu un 5 à la 9 la tierce de do dièse majeur, qui était devenu un 5 à la 9 la tierce de la do dièse, puis il retourne en ré majeur. Tout ça à l'intérieur de l'exposition du premier groupe thématique. Vous avez ça dans vos notes. Essayez de vous rappeler tout ce que vous avez vu. Ce serait l'idéal, d'accord? D'avoir mémorisé, d'avoir une très très grande mémoire. C'est ce qui sert le plus. C'est ce qui nourrit l'intellectuel, la possibilité de faire des parallèles. Plus fort, la plus grande mémoire possible, développer là. C'est dommage parce qu'on se dit aujourd'hui, il ne faut pas développer la mémoire, ça fait des singes savants. Mais pour mettre deux objets en rapport, il faut se souvenir des deux objets, sinon on ne fait aucun rapport. L'intelligence ne peut pas agir s'il n'y a pas de mémoire, c'est impossible. Donc, mémoriser, on mémorisait toutes les fables de La Fontaine, tout Molière, tout Racine, on a tout fait ça. Alors, on est en si mineur. Et vous remarquez quoi au départ? L'arpège de si mineur, mais avec quoi? La présence du sixième degré qui vient colorer la corde tonique. C'est une constante. Observez là, on a déjà ce premier geste à faire. 4, 2, 5. Qu'est-ce qu'ils font de 2 à 5? Toutes les voix s'en vont par mouvement contraire à la voix. D'accord? Par mouvement contraire à la basse. Vous l'observez. 2, 5, 1. C'est bien ça, vous avez travaillé. 2, 5. Ensuite, vous observez quelle voix. Si do, re, mi, fa, sol, si do, re, mi, fa, sol, si do, re, mi, fa, sol. est déjà modulé. Il est rendu en fa dièse, fa dièse. Il est déjà modulé. Alors, 6, il y avait beaucoup de gestes de la gale. Alors, il y avait la même chose ici, je reviens à la mesure 2. 5, 1, 5, 1, 5, 1, c'est la même chose que... Son la dièse, si, do, ré, mi, fa. Pourquoi? Parce qu'il vient de faire un la dièse, fa, si, do, ré, mi, fa. Mais en fait, c'est pas ça. Mais ici, il le fait sur une pédale de tonique. 4, 2, 1. Cadence, un genre de plagal. Ils aiment beaucoup le plagal. Chopin, Liszt, Brahms. Ces gens aiment beaucoup, beaucoup les USH plagal. 4, 2, 1. Cela va nous permettre. S'en aller en fa dièse mineur et reprendre le motif de tantôt, la mesure 1. 5, 2, 5, 2, 4, 5. Avec la tierce de Picardie, clore le ton fa dièse mineur qui devient 5, 2, 5, 5. Le motif est repris en mi mineur. 6, 2, 5. Toujours le motif numéro 20. 5, 2, 5, 2, 1. Il apprend tout ça. Mais ce sont des zones affiliées. Il a osé aller dans le ton de fa dièse mineur, dans le ton de mi mineur. On est toujours à l'intérieur du matériel du premier groupe thématique. Toujours à l'intérieur du premier, de l'exposition du premier groupe thématique. Il arrive là, il finit ça par rapport à mineur. Ensuite, là, bon, il vient de faire 5, les deux choses d'ailleurs. 1, 4, 1. Toujours ce geste plagal qui surgit là, à partir de là. Et vous notez toujours, bien sûr, qu'il y a dans ces petits gestes-là, il y a toujours une note ornementale. La note, la première note du groupe de quatre double croches est toujours une note ornementale. Ça va, elle est là depuis le début. D'accord, une note ornementale, sol, fa. Donc, quand on est rendu à la fin, mi, do, si, sol, mi, c'est l'accord de mi mineur. Bien sûr, c'est pas l'accord de do, mi, sol, si. Le do bémol est toujours une appoggiature du si, si vous voulez. Do, si, sol, mi. Mesure 13. Alors, on est vers mi mineur. Mais là, il faudrait qu'il se retrouve encore en si mineur. Il n'a pas fini son premier groupe thématique. Il va se retrouver en si mineur avec quoi? Ça, c'est l'accord de fa. Et toute la note, la première note du groupe de 4 qui est toujours augmentale. 5, 2, fa dièse, etc. Alors, vous vous retrouvez ici avec quelque chose, vous êtes à l'intérieur d'une marche, et avec quelque chose, bien sûr, qui relève du quatrième facteur des du sixième facteur d'altération des accords positifs de tonalité, c'est le fameux 4OC. Vous deviez faire mi mineur. Mi mineur, 5, 2, 4, OC, 5, 2, 5. On ne modulera pas, on n'ira certainement pas en fa majeur. D'accord? Mi mineur est 4, on fait un 5, 2, 4, OC. Il n'y a pas écrit mi dièse, bien sûr. C'est beaucoup trop difficile à lire. D'accord? On est entre 4 et 5. Alors, 5 de celui-ci, mais ensuite 5 de ça. On est à l'intérieur d'une marche numéro 7. Pas tout le monde, marche numéro 7. Et vous voyez survenir l'emploi de sixième facteur d'altération de la composition de notre tonalité. Chercher d'autres degrés à l'intérieur du chromatisme, la gamme de si mineur. Entre le 4, alors on va faire un 5 de 4 avant, 5 de 4, ensuite 5 de 4, 5 de 4 aussi, 5 de 5. Et à partir de là, là, vous ne savez plus quoi faire avec ça. À vous regarder, qu'est-ce qui vient là-dessus? Sur fa dièse, c'est pas une pédale, il n'y a pas de pédale de 5. Tout simplement, si vous regardez les accords qui sont là. Sur le troisième temps, la mesure 14, et quatrième temps, c'est toujours un accord de fa dièse majeur. Le voyez-vous? Enlevez le ré. Ça va? L'accord sur les deux premiers temps suivants, c'est l'accord de sol si ré. Enlevez le mi, qui est une note ornementale. Vous suivez sur la partition. D'accord? Regardez la partition. Sur le troisième et quatrième temps suivant, c'est l'accord de sol dièse majeur. Ça va? Troisième et quatrième temps suivant. Sur le premier temps et deuxième temps suivant, c'est l'accord de la do dièse mi. Enlevez le fa dièse, qui ne compte jamais. Tout ça est symétrique. Et ensuite, on arrive à l'accord de la dièse do dièse mi. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis au tableau. D'accord? Ça vous donne ceci. Voici votre quatrième degré. Ça, on entre dans la marche numéro 7. C'est 5 de 4OC. 4OC, bon. 4OC, c'est mi dièse. 5 de mi dièse. 4OC entre mi et fa dièse. 5 de 5. Et voici le 5 que font ces accords-là, ici. Enfin, tout ça. Ce sont uniquement les notes de passage. Du fa dièse, on s'en va chercher la dièse, avec un sol, sol dièse là. Du do dièse, on s'en va au mi, en cherchant deux notes de passage. Du la dièse, on s'en va au do dièse, en ayant deux notes de passage. Alors, vous le jouez dans ce temps-là comme ceci, ça vous donne, puisqu'on avait le fa dièse en haut. Ce sont les notes au-dessus, d'accord? Oui, on peut penser. Ça dépend comment on définit la pédale. Si vous définissez la pédale comme étant une note qui tient le coup longtemps pendant qu'il y a différents accords au-dessus, moi, c'est pas comme ça que je définis la pédale. C'est une autre définition de la pédale que je donne. Pour avoir une pédale, il faut que j'ai des fonctions harmoniques dessus, d'accord? Et non pas seulement des accords à fonction ornementale. Ici, ce sont que des accords à fonction ornementale. Mais sur d'autres définitions, on peut définir les choses qu'on veut. On veut qu'on les définisse clairement. Et ça, Chopin le fait souvent, il l'a pris au C-Bach. Non, le prix de clavier met en péril. Ça fait ceci. Mais il y a toujours le même petit motif. Ce qui fait qu'on est toujours à l'intérieur du premier groupe thématique. D'accord? À cause du motif. Et là, apparaît deux tonalités qui vont être très courtes. Une mesure chacun dans toute l'exposition de la sonate, l'exposition du premier mouvement. Alors, on arrive dans le ton de si bémol majeur. Pourquoi? Alors, si vous regardez son parcours tonal, je vais enlever ça ici, dans l'exposition de la forme sonate, de cette sonate numéro 3, on est en si mineur, ensuite il va aller mi fa dièse, mineur, 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 fa dièse d'abord, fa dièse, mi. Je vous l'avais dit que c'est comme ça que je présente mon graphisme quand je veux présenter le parcours tonal. Alors, si, fa dièse mi, on est à l'intérieur de l'exposition du premier groupe thématique. Voici l'exposition du premier groupe thématique. C'est rien ainsi, c'est qu'on n'a pas quitté le premier groupe thématique. Ça, ce sont deux zones affiliées, étalées dans le ton du cinquième degré, dans le ton du quatrième degré. D'accord? C'est sûr qu'il n'aura pas fait son deuxième thème en fa dièse mineur, comme il aurait pu le faire, parce qu'il a déjà touché ici. Ensuite, il va s'en aller sur si bémol majeur, ensuite sur sol mineur, ça va être une mesure, ça dure une mesure, et ensuite, on va s'en aller où, ceux qui connaissent la sonate? Pianiste, hein? Pas de pianiste? Vous êtes censé connaître par cœur la sonate, les pianistes, hein? Alors, vous êtes en ré mineur, et ensuite, le deuxième thème rentrera, d'accord? Ça, c'est uniquement le pont. Un très très long pont. Et ensuite, on va rentrer en ré majeur pour deuxième groupe thématique, un des deuxièmes groupes thématiques les plus longs de toute l'histoire de deuxième groupe thématique qui est très 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 long ici, comme proportion, dans le très 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 long en ré majeur. Alors, que vient de faire? Ici, vous avez des zones affiliées, ça va, parce qu'on est à l'intérieur de si mineur. Et ici, voici des zones relais qui vont nous permettre d'aller vers le ton de ré mineur. Et vous savez que très souvent dans la forme sonate, on amène la tonalité du deuxième groupe thématique en passant par le mode opposé. C'est archi fréquent. Schubert, Brahms, Beethoven en particulier, d'accord, deuxième groupe mineur. Donc, on va s'en aller en ré majeur, on passe par ré mineur, si bémol, sol, ré. C'est comme un geste plagal, 6, 4, 1. C'est comme le, d'accord, 6, 4, 1 de ré mineur. Mais ça, ce sont des zones relais qui sont là uniquement pour nous permettre de passer au ton. Le ton principal qui est ici. Deuxième groupe thématique au conseil là. Voici le parcours tonal de l'exposition de la troisième sonate de Chopin. D'accord? C'est juste pour faire comprendre ce que ça veut dire zone affiliée, qu'on est obligé de rapporter à la tonalité principale tant qu'on n'a pas quitté la première, le premier groupe thématique. Ensuite, voici des zones relais qui nous permettent simplement de passer au ton de ré mineur en passant par si bémol sol, qui se rapporte à ré mineur en quelque sorte. Mais des zones relais. Une mesure en si bémol, une mesure en sol. Ça, c'est à peu près une vingtaine de mesures ici, peut-être pas 10, 12, 15. Et puis ensuite, ré majeur, très, très, très long. D'accord? Voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, mais c'est un texte plus costaud, là. Mais si vous le prenez, en reculant, en regardant ce qui se passe au-dessus, en donnant la peine d'écrire les choses comme ça, comme vous le voyez, d'accord? En ayant saisi que ça, c'est un accord de fa dièse, sol, vous enlevez les notes ornementales, vous avez compris. Dès le début, dès sa petite cellule du début, son petit motif du début, on a compris que la première note est toujours ornementale. Vous l'enlevez, vous arrivez à ces accords-là. d'accord? Voilà pour les mécanismes modulatoires 7 et 8. Donc, 11 et 12, pardon. Mécanismes modulatoires 11, 5 égale 5 de 5, c'est à l'angle. Et ensuite, l'autre, 6 égale 1. Rappelez-vous aussi cette façon pour les romantiques de faire des cadences confus avec le geste sol-do à la basse ou le geste si-do à la basse. Ensuite, je les prends un par un. Commençant du début. En général, les gens se sont bien retrouvés là-dedans, sauf quelques exceptions. Le Mozart, la fantaisie, que je fais à 475. Quelle est la nature de l'accord utilisé dans la mesure 122, la première mesure de ce texte, David Perrault? Pardon? Non, je ne parle pas de la fonction. Écoutez toujours ma question. Je ne demande pas la fonction harmonique, je demande l'accord qui est utilisé. Quel est le type d'accord utilisé dans la première mesure? Oui, absolument, mineur. Que fait le La? Non. Alors ça, c'est important de comprendre que ce n'est pas une broderie du Si. Alors, suivons le La. Plaquez l'accord. Quel est le contrepoint sous-jacent? C'est de comprendre l'analyse contrapuntique, qui est plus importante que l'analyse harmonique. La première grande analyse, c'est la forme. Deuxième grande analyse, le contrepoint. Et après ça, l'harmonique, s'il vous plaît. Alors, vous avez bien sûr un accord mineur ici avec l'appoggiature du sol. Et ensuite, que fait le fa? Comme une anticipation de la poggiature suivante. La, sol, fa, fa, mi, fa, sol, sol, fa, fa, mi, ré, ta, ta, ti. D'accord? Le fa ensuite, c'est pas un accord de septième mineur comme tel, hein? C'est le fa devient une anticipation de la poggiature pour l'accord suivant. Donc, vous avez sans cesse un accord parfait mineur avec la poggiature et un accord de septième, la poggiature de la fondamentale et ensuite un accord de septième mineur avec la poggiature de la tierce. Pendant ce temps-là, la basse fait quoi? Bien sûr, là c'est des broderies, ça c'est une broderie à la base. Vous avez deux niveaux d'ornementation à la base. Vous avez d'abord les notes de passage, sol, la, toute note de passage, si bémol, note de l'accord. Pendant ce temps-là, chacune de ces notes-là est broderie, ça c'est des broderies. D'accord, c'est de distinguer tout ça, là. C'est complexe, mais c'est tout ça. C'est comme le la, pa, pa, là on fait des broderies, ça c'est des broderies. D'accord? Alors, deux. Alors, on fait toujours un accord mineur, un accord septéminant, un accord mineur, septéminant. Chaque fois que vous avez une sorte de bac à Wagner et que vous avez un jeu de 15 justes en ordre fondamental, sol, do, fa, si bémol, ré bémol, la bémol, ré bémol, ça donnera toujours le même résultat, c'est-à-dire la formule en marche. 2, 5, 1 égale 2, 5, 1 égale 2, 5, 1. Et elle s'arrête nécessairement à la mesure 128. Pourquoi? Parce que là, on se retrouve avec un accord parfait majeur. Ça va? Donc, ça vient freiner ce mouvement-là, parce que pour continuer, 1 égale 2, il faudra avoir un accord mineur. Accord mineur, septéminant, mineur, septéminant, c'est caractéristique de la formule 2, 5, 1 égale 2, 5, 1 égale 2, 5, 1, à condition, bien sûr, qu'on ait à faire un jeu de 15 justes entre les fondamentales. Est-ce que c'est clair? Vous avez un super exemple de ça. Ce sont les choses que vous aviez dû faire lorsque j'ai présenté au 3, 4e cours, hein, des formules en marche. Vous en souvenez-il? Vous avez vous-même vous expliqué par rapport à ça, la formule 2, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 22, je suis inquiète, à moins que vous connaissiez très bien la partition de ce qui s'est passé avant. Mais compte tenu qu'on ne vous donne pas le contexte, ça commence à 2 et non pas 1 et à 2. Qu'est-ce que vous savez que c'est erreur? Vous ne le savez pas. De la même manière qu'à la mesure 128, vous ne mettez pas, vous ne pouvez pas mettre 1 égale 2, puisqu'on est en forme majeure. Attention à ce genre de précision et de rigueur. Hein? Je passe au Chopin du dessous. Alors. Survient toujours sur le troisième temps, mais que le deuxième temps complète l'accord. Différentes, il n'y a pas de pédale de 5. tout simplement la neuvième majeure qui agit comme appoggiature de la fondamentale. Ou neuvième mineure qui appoggie. C'est un accord de la do dièse mi sol. D'accord, est-ce que tout le monde voit ça? C'est simplement l'accord de la do dièse mi sol avec le si, appoggiature de la, si bémol, l'appoggiature 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 de la. La neuvième mineure, soit la neuvième majeure, la appoggiature de la fondamentale. Est-ce que c'est clair? C'est tout ce qui se passe là-dedans. Ensuite, 5, 5, 1, avec le fa dièse échappé. Le ré, le do dièse va au ré, avec le fa dièse échappé. Alors, voici la tonalité de ré majeur. Et à partir de là, vous observez quoi? Ça peut prendre un certain temps avant de comprendre qu'on a un rythme harmonique qui est qui s'exprime comment, Émilie? Ah non. Qui s'exprime à l'accroche. Alors, je vais claquer les accords. Quel est votre instrument, Émilie? Ah bon, d'accord. Ça va, vous êtes pardonné. Alors, il faut que vous compreniez qu'à partir de la mesure 5, vous avez un rythme à l'accroche. Alors, vous devez, par exemple, un excellent exercice à faire, ça consiste à jouer sur chacun des temps l'accord plaqué et à ramener tous les accords à l'état fondamental. Alors, vous faites ça, vous allez entendre ce qui se passe. Sinon, je donnais ça à l'entrée du cours, je donnais une espèce de petite boîte, une pilule, vous l'avalez, puis quand vous voulez avoir les accords fondamentaux, ça donne plus d'accords. Alors, on avait quoi? Alors, on est quoi? Et vous entendez, j'imagine qu'à force de le refaire, vous rejouez ça, puis qu'est-ce qui va sonner en vous? Comme ça. Si, ré, mi, si, ré, mi, la, ré, mi, la. Si on est en la, qu'on fait toute l'analyse, ça me donne quoi? Si, ré, mi, la, ré, mi, la. Si, ça fait 2, 4, 5, 1. 4, 5, 1. Et voilà. Alors, donc, il joue beaucoup avec la formule 2, 5, 1 qui de temps en temps est suivi d'un 4. Ou le 4 qui est suivi du 2, ou le 2 qui est suivi du 4. Hein, c'est une formule, c'est l'équivalent. 4 ou 2. Alors, ça fait ici 2, 4, 5, 1, 4, 5, 1. Et là, hop, il va changer. Ici, le 4 qui est un accord majeur devient mineur pour s'en aller vers mi mineur. Ça accentue le caractère mineur avec lequel il se dirige. Vers mi mineur. 1 égale 4, 2, 5, 1. Encore une fois, ça fait 4, 2, 5, 1. Tantôt, on avait un 2, 4. Là, ça fait 4, 2. Je suis à la mesure 8. 1 égale 4, 2, 5, 1. 4, 5, 1. Et on vient de finir le temps de mi mineur. Deux mesures, c'est parfaitement symétrique. Enfin, parfaitement symétrique au niveau du nombre de mesures dévolues à chaque tonalité, avec toujours des petits changements quelque part. Et au premier temps, la mesure 10, donc le 1 égale 4 à nouveau, 1 égale 4, le 4 est repris, 4, 4, 5, 1, 4, 5, 1. Donc, vous avez une formule en marche qui est la formule 2, 5, 1 qui de temps en temps est précédée de 4 ou suivie de 4. D'accord? Ou plutôt la formule 4, 5, 1 plutôt. Le 1 égale 4. D'accord? C'est toujours le 1 égale 4. Le 1 égale 4 à la mesure 8, le 1 égale 4 à la mesure 10. Est-ce que c'est clair pour vous d'avoir saisi ce rythme harmonique qui était amorcé à la mesure 5? D'accord? Sortez les accords. Sortez les accords. Le Schubert. Très souvent, c'est toujours l'espèce de sensible qui vient en appoggiature de la fonction 4 quand vous voulez l'accompagner, que vous voyez une chose comme ça. Vous êtes sûr que ça va donner un quatrième degré ici? C'est le sensible qui sert d'appoggiature à la fonction 4. Ça, c'est archi, archi, archi court. Ça peut aider d'observer tout ça pour savoir qu'est-ce qu'on met quand on l'accompagne. Alors, bon, la tonalité est facile à trouver. Pourquoi? Parce que vous retrouvez le motif numéro quoi? Du petit catalogue, toujours le motif numéro quoi? 6A, la fameuse formule de cadence qui revient le plus souvent de Bach à Wagner. La voilà. Sol, la, si, sol, si, si. 1 ou 3, 4, 2 et 6. Une cadence parfaite à la suite de laquelle la corde tonique se métamorphose en accord de septième de dominante. D'accord? Et c'est cet accord-là qui devient l'accord pivot. Alors voici. Attendez, le troisième temps, c'est là que ça arrive. Il n'est pas arrivé d'abord, il y avait une cadence parfaite. Maintenant, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Oh, 1, 7 plus. Bon, là, il va moduler avec le 1, 7 plus. On utilise 1, 7 plus quand on a cet accord qui vient à la suite d'une cadence parfaite. Si on avait une cadence évitée avec le 5, et tout de suite le 4, tout de suite une cadence écoutée, on aurait dit 5 de 4 égale. Vous comprenez la différence entre le 1, 7 plus égal et le 5 de 4 égal. Dans les deux cas, c'est le même accord, mi, sol dièse, si, ré d'écart. Mais si on a eu d'abord une cadence parfaite, suivie ensuite de l'accord qui s'est transformé, là on dira 1, 7 plus égal sur le troisième temps. Il y a une même idée.
Il écrit d'abord, en premier, la prolongation du SH avec 1 se transformant en 5 de 4.
C'est ça. 1 se transformant en 5 de 4, mais on va dire ici, page A54 annexe 3. Alors, cherchez donc la page A54 annexe 3. Tout le monde, et on va avoir ouvert cette page-là maintenant. En 5 de 4, sous la forme, en se transformant en 5 de 4. Vous avez raison. Septième dominante ou septième dominée pour devenir accord pivot. Exemple 1 et 2. Et alors, donc, vous ne finissez pas, vous lisez, vous allez voir l'exemple 1 et 2, Fabienne. D'accord? Et l'exemple 1, vous voyez que je fais 5, 1, 1, 7 plus. Et l'exemple 2, je fais 5, 1, 1, 0, 9. Là, c'est parce que l'accord, le 1 s'est transformé. Pour bien distinguer de l'exemple 5 et 6, où là, vous avez eu le 5 suivi d'un 5 de 4, puis je l'ai redit en classe en plus, d'accord? Alors, pour distinguer le 1, 7 plus, le 5 de 4 égal, parce qu'on pourrait penser, quand on voit 5 de 4 égal, on pourrait penser qu'on a quitté la première tonalité avec une cadence évitée. J'utilise, quand on a quitté la première tonalité avec un 1 qui voudrait se transformer ensuite en 5 de 4, si vous voulez, mais c'est comme si on avait... Je ne veux pas aussi engager l'USH, ce serait une USH incomplète, d'accord? Alors, c'est pour bien distinguer entre 1, 7 plus et 5 de 4. Le 1, 7 plus, vous le mettez quand vous allez quitter l'accord, la fonction tonique avec une cadence parfaite, à la suite de laquelle l'accord se transforme en 7 dominant. Puis là, on ne sait pas s'il va aller faire un 5 de 4 en restant dans la même tonalité, juste une modulée. D'accord? On attend. D'accord? Si module, c'est le 1, 7 plus égal ou le 1, 0, 9.
Juste pour être sûr, on met le 1 en dessous du 1, puis 1 7 plus seulement quand c'est l'accord de dominant, puis celui qui est l'accord septième majeur, on fait quoi? Juste le trait.
C'est un 1 qui se poursuit, c'est une note de passage. D'accord, le 1 7 plus égal. 1 7 plus égal, là on voit bien ce que ça égale. Formule numéro 2 du petit catalogue. À chaque fois que vous entrez dans une tonalité avec ça, c'est ce qu'on vient de voir chez Chopin dans la troisième sonate. Souvenez-vous, on vient de voir ceci. Donc, là, ici, on parle de 1, 7 plus, qui devient 5 de 5, c'est allemand, 1, 6, 4, 5, 1. Vous en avez dans la bémol majeur. C'est très facile, donc, de partir du ton de mi majeur pour aller en la bémol majeur. Le 1, 7 plus égale 5 de 5, c'est allemand. Et je pourrais vous donner, voulez-vous réorthographier l'accord en fonction? En vertu de la fonction que vous allouez de cet accord-là. Mi, sol dièse, si, ré bémol, pour aller en la bémol majeur deviendrait quoi?
La bémol.
La bémol, la bémol,
do bémol.
Non, ré bémol, parce que c'est un 5 de 5 sixte allemand. Et pour avoir une sixte allemande, on prend l'accord de septième dominant, puis on transforme la septième en sensible. Donc ça ferait fa bémol, la bémol, do bémol, ré bémol. Ça doit être super. N'ayez pas peur des notes qui sont là, regardez. Ah mon Dieu, mon Dieu, c'est compliqué ça. D'accord? Si vous êtes en Do, voyez la formule en Do. Si vous voulez avoir 5 de 5, c'est allemand de 5, 1, c'est quoi? Faites toujours prototype en Do. Bon, 5 de 5, c'est allemand, donnez-moi une note, 5 de 5, c'est allemand, là, en Do. La bémol, Do, la bémol, fa dièse. Donc, vous prenez un accord de 7e dominante sur le 6e degré abaissé, la bémol, vous montez votre accord de 7e dominante, la bémol, Do, mi bémol, sol bémol, et vous transformez votre sol bémol en sensible. Ça, j'avais fait. Quand je suis en la bémol majeure, le sixième degré abaissé, c'est quoi? C'est fa bémol. Vous montez là-dessus un accord de septième de dominante. Fa bémol, la bémol, do bémol, mi double bémol. Et vous changez de mi double bémol en ré bémol. Ça va? C'est pas plus compliqué. C'est pas dangereux, le transposer. Ça donne pas mal à la tête. D'accord? Mais habituez-vous. Et voilà, c'est un texte très simple. Le Brahms. On va prendre la pause. Vous prenez des notes, vous regardez quelle est la formule, avec laquelle, quelle formule vous avez quitté une première zone, comment les organiser ça, c'est un crayon jaune, rouge, bleu, hein, pour faire la révision, là.